Chapitre 2. Avant de nous occuper de Monsieur Gray, je crois utile de vous dire comment nous passions notre temps au château d'Hanbury. Nous étions 5 jeunes personnes dans la maison, à l'époque de l'arrivée du nouvel ecclésiastique. Toutes les 5 de bonne famille et comptant dans l'aristocratie tout au moins un allié. Dès que nous n'étions pas avec Lady Ludlow, nous nous trouvions sous la surveillance de Mistress Medlicott, petite femme bien élevée, qui était depuis fort longtemps avec sa seigneurie, dont on la croyait un peu parente. Elle avait passé toute sa jeunesse en Allemagne, je pense même qu'elle y était née, ce qui expliquait à la fois son accent germanique et l'habileté qu'elle possédait dans tous les genres d'ouvrages à l'aiguille, ouvrages que l'on ne connaît plus aujourd'hui, même de nom. Elle raccommodait les bas, la dentelle, le linge de table, la mousseline des Indes, avec une telle perfection qu'il était impossible de découvrir l'endroit où elle avait fait sa reprise. En un mot, bien qu'elle fût bonne protestante et ne manquât jamais d'aller à l'église le 5 novembre, elle était aussi adroite qu'une religieuse papiste. Nous travaillions avec elle une grande partie de la journée, soit dans le laboratoire, soit dans l'atelier de couture qui donnait dans la grande salle. Lady Ludlow méprisait tous les ouvrages de fantaisie. Elle les considérait comme étant bons, tout au plus, à distraire les enfants. Quant aux femmes, elles devaient restreindre leur plaisir à un ouvrage de couture délicat et soigné. Les grandes tapisseries qui décoraient la salle étaient bien l'œuvre de ses aïeules, mais celles-ci vivaient avant la réforme et ignoraient par conséquent cette pureté de goût et de principe qui doit régner dans les moindres actes de la vie, aussi bien que dans les croyances religieuses. Sa seigneurie n'approuvait pas davantage la mode qui existait alors, parmi les femmes du monde, de fabriquer des souliers. C'était, disait-elle, la conséquence de la Révolution française, qui avait bouleversé toute la hiérarchie sociale, et qui permettait qu'on vît des jeunes filles de bonne maison manier une haleine et se servir de poids, comme si leur père avait été cordonnier. Il arrivait souvent que nous étions demandés, l'une ou l'autre, pour aller faire à sa seigneurie la lecture de quelques livres instructifs. C'était en général le Spectateur d'Addison. Toutefois, je me rappelle un certain ouvrage traduit de l'allemand que Mistress Medlicott avait recommandé à Milady. Les réflexions de M. Sturm, qui nous disait à quoi il fallait penser chaque jour, et cela depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Rien n'était plus ennuyeux. Mais la reine Charlotte avait beaucoup aimé ce livre, et le souvenir de cette royale approbation combattait chez Milady l'influence de cette lecture soporifique. Les lettres de Mistress Chapone et les conseils du docteur Grégoire aux jeunes filles étaient, avec les ouvrages précédents, les seuls livres qu'on trouva dans notre bibliothèque. Je ne parle pas de la Bible que nous lisions tous les dimanches. Quant à moi, j'étais enchanté de quitter l'aiguille, et même de renoncer à ma lecture pour aller dans le laboratoire préparer les conserves et les médicaments. Il n'y avait pas de médecin à 4000 à la ronde, et sous la direction de Mistress Medlicott, nous inspirant des formules du docteur Buchamp, nous expédions chaque jour maintes et maintes potions qui, j'ose le dire, n'étaient pas moins bonnes que celles du pharmacien. Je ne crois pas en conscience qu'elles aient jamais fait de mal. Leur saveur était généralement très douce, et quand, par hasard, nous leur trouvions un peu plus de goût qu'à l'ordinaire, Mistress Medlicott nous y faisait ajouter de la cochenille et une quantité d'eau suffisante pour n'avoir rien à craindre. Mais si nos fioles ne contenaient en réalité aucun élément actif, nous leur mettions une étiquette dont les paroles mystérieuses aidaient considérablement à leur efficacité. Que de petites bouteilles d'eau colorées en rouge, ne contenant d'autres matières médicales que 2 ou 3 grains de sel, mais bien et dûment étiquetées, sont sorties de notre laboratoire à la grande reconnaissance des malades qui leur devaient une guérison rapide. Que de pilules de mie de pain fabriquées dans l'origine avec l'intention pure et simple de nous exercer à manipuler et dont les résultats n'ont pas été moins merveilleux. Il est vrai qu'avant de donner la boîte où elles étaient contenues, Mistress Medlicott avait soin d'expliquer l'effet qu'elles devaient produire sur le malade, effet qui ne manquait jamais d'arriver. Je me rappelle un vieillard qui n'aurait pas dormi s'il n'avait pris tous les soirs 4 ou 5 de nos pilules et qui souffrait tellement lorsqu'il n'en avait plus qu'il se croyait à sa dernière heure. Je suppose que la médecine que nous faisions alors, au moyen de cette pharmacopée, à la fois simple et puissante, était ce qu'on appelle maintenant de l'homéopathie. Mais en surcroît de nos préparations pharmaceutiques, nous apprenions dans le laboratoire à faire toutes sortes de friandises. pour le jour de Noël, des pâtés et de la bouillie aux raisins de Corinthe, des crêpes et des pâtes frites le mardi gras, des gâteaux à la violette pendant la semaine de la Passion, du pudding à la Thanasie le dimanche de la Pentecôte, le jour de la Trinité des gâteaux à trois cornes, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Tout cela d'après de bonnes vieilles recettes cléricales léguées à Milady par ses premières aïeules protestantes. Nous passions, chacune à tour de rôle, une partie de la journée avec sa seigneurie, et de temps en temps nous allions nous promener avec elle dans son carrosse à quatre chevaux. Elle eût trouvé indigne de son rang de n'avoir que deux chevaux à son équipage. Au fond, il n'y avait pas trop de quatre pour traîner la pesante machine à travers la boue épaisse des ornières que nous trouvions partout, mais c'était assez embarrassant que les chemins étroits du Warwickshire. Et je me suis dit bien souvent qu'il était fort heureux que les comtesses ne fussent pas plus nombreuses, car si nous avions rencontré une seconde voiture à quatre chevaux, je ne sais pas ce que nous serions devenus. Cette crainte de nous trouver un jour face à face avec une autre femme de qualité dans l'un de nos chemins de traverse, augmentant chez moi de plus en plus, je questionnais Mistress Middlecote pour savoir ce qui arriverait en pareilles circonstances. « Celle de la dernière création, me répondit la gouvernante, serait obligée de reculer. » Ces paroles m'intriguèrent pendant longtemps, mais je finis par en pénétrer le sens, et je commençai à comprendre l'utilité du Peerage, un livre qui jusque-là m'avait paru souverainement ennuyeux. J'ai toujours été fort peureuse en voiture, aussi m'empressai-je de rechercher à quelle date remontait la création de nos trois contes du Warwickshire. Et j'appris avec joie que Lord Ludlow occupait le second rang, ce qui, dans l'espèce, équivalait au premier. Le plus ancien de nos trois contes n'étant qu'un vieux chasseur dont la femme était morte et qui probablement ne sortait jamais qu'à cheval. Nous revenons à Monsieur Gray, dont nous voilà bien loin. C'est à l'église, le jour de sa présentation, que je le vis pour la première fois. Il avait le teint qui accompagne ordinairement les cheveux blonds, et rougissait avec une extrême facilité. Petit et mince, il paraissait d'une constitution assez frêle, et sa chevelure, soyeuse et frisée, avait tout au plus un œil de poudre. Je me rappelle que Milady soupira profondément en faisant l'observation. Bien que depuis la famine de 1799 la poudre eût été frappée d'un impôt assez fort, il n'en était pas moins considéré comme très révolutionnaire de ne pas l'employer en quantité suffisante. Les Jacobins seuls n'en mettaient pas du tout. Sa seigneurie avait déjà beaucoup de peine à accepter les opinions d'un homme qui portait ses propres cheveux. Elle avouait cependant que c'était un préjugé. Mais dans sa jeunesse, il n'y avait que la canaille qui se permit une pareille énormité. Il eût été impossible de ne pas associer la perruque à l'éducation d'un gentilhomme et de séparer son absence de cette classe d'individus où George Gordon, l'un des épouvantails de sa jeunesse, avait recruté les émeutiers de 1780. Son mari et ses frères avaient quitté leurs jupons et avaient eu la tête rasée chacun à l'âge de 7 ans. Une jolie petite perruque, à la dernière mode, formait invariablement le cadeau de fête que Lady Ludlow, l'ancienne douairière, donnait à ses fils le jour où ils entraient dans leur 7e année. Depuis cet instant jusqu'à leur mort, on ne voyait plus un seul de leurs cheveux. Montrer sa chevelure était déjà un pas énorme dans la voie des idées nouvelles, mais la porter sans poudre, ainsi que parlaient de le faire certaines gens mal élevées, c'était insulter aux convenances, blesser la pudeur par un costume indécent, faire en un mot du sans-culottisme anglais. Toutefois, M. Gray portait un œil de poudre, assez pour que Milady lui épargnât sa disgrâce, et trop peu pour mériter son entière approbation. La seconde fois que je vis le nouveau pasteur, il était dans la grande salle. Mary Mason et moi, nous devions sortir en voiture avec Lady Ludlow, et quand nous descendîmes de notre chambre, où nous avions été nous équiper, nous trouvâmes M. Gray qui attendait Milady. Je ne crois pas qu'il lui eût fait de visite et qu'il eût mis ses hommages aux pieds de sa seigneurie. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il avait refusé de venir le dimanche soir au château, ce qui avait peu disposé Milady en sa faveur. En nous voyant entrer dans la grande salle et lui faire la révérence, il rougit plus que jamais, toussa deux ou trois fois, comme s'il avait voulu nous parler, ce qu'il aurait fait sans aucun doute s'il avait eu quelque chose à nous dire, et devint encore plus rouge à chaque fois qu'il toussa. Je l'avoue à notre honte, mais nous avions beaucoup de peine à nous empêcher de rire, d'autant plus que nous étions nous-mêmes assez intimidés pour comprendre la situation du pasteur. Milady arriva bientôt d'un pas rapide. Elle marchait toujours très vite quand elle oubliait de prendre sa canne, et cette fois elle se pressait pour ne pas nous faire attendre. Elle nous salua de l'une de ses profondes révérences à la fois si courtoises et si gracieuses, et dont elle semble avoir emporté le secret dans la tombe. Puis elle se dirigea vers M. Gray, qui était debout vers la cheminée. Elle le salua de nouveau, plus profondément encore, et lui demanda, en se préparant à l'introduire chez elle, s'il ne préférait pas lui parler en particulier. Mais le pauvre jeune homme aborda tout de suite le sujet qui l'avait amené, sujet dont il avait le cœur si rempli que ses grands yeux se mouillèrent de larmes. « Je viens parler à votre seigneurie, dit-il, pour la supplier d'intercéder auprès de M. Latome, à propos d'une affaire criminelle relevant du château d'Attaway. »« Auprès d'Henry Latome ? » demanda Lady Ludlow. « Je ne savais pas qu'il fût de la magistrature. »« Il ne fait que d'y entrer. Je ne crois pas qu'il y ait 3 semaines qu'il a prêté serment. C'est là ce qu'il y a de malheureux. »« Je ne comprends pas que vous puissiez le regretter, » répliqua Milady. « Les Latome possèdent le fief d'Attaway depuis le règne d'Édouard Ier. Le chef actuel de la famille est jeune, mais il est fort estimé, bien que son caractère soit un peu vif, je le reconnais. Il vient de faire emprisonner Job Gregson, Milady. » Le pauvre homme est innocent du vol dont on l'accuse, je le sais, j'en ai la certitude, tous les témoignages le prouvent, mais les membres du tribunal se tiennent tous et perdent de vue la justice. Ils condamneront ce malheureux pour fêter la bienvenue du nouveau juge. C'est, disent-ils, la première arrestation que décrète M. Latome. Il ne serait pas convenable de lui répondre qu'il n'y a pas de preuves contre son accusé. Au nom du ciel, Milady, parlez à ces messieurs. Ils écouteront votre seigneurie, tandis qu'ils me renverraient à mes propres affaires. » Lady Ludlow, par malheur, n'était que trop disposée à soutenir les nobles, particulièrement ses proches, et Latome d'Attaway était cousin des Hanbury. C'était d'ailleurs à cette époque une affaire de conscience que d'encourager un nouveau magistrat au début de sa carrière en frappant d'un arrêt plus ou moins rigoureux les premiers individus qu'il faisait arrêter. Il faut avouer, aussi, que le malheureux Gregson n'était pas fait pour inspirer de l'intérêt. C'était le père d'une fille qui avait été placée au château en qualité d'aide de cuisine et qui venait de se faire renvoyer pour son impertinence envers Mistress Adam, la femme de chambre particulière de Milady. Quel motif M. Gray avait-il de croire à l'innocence d'un pareil homme? Quelles étaient ces preuves irrécurables dont il ne disait pas un mot et qui sans doute n'existaient que dans son imagination? M. Gray, répondit sa seigneurie en se redressant un peu. « Je ne vois pas qu'il soit nécessaire de nous immiscer dans un pareil débat. Monsieur Henry Latome a l'esprit juste, le cœur droit, et saura reconnaître la vérité sans avoir besoin de notre concours. » Mais de nouvelles preuves se sont produites, et l'innocence de... « Je suppose, répliqua sa seigneurie, dont la taille devint plus roide et la parole plus froide, que ces preuves additionnelles ont été fournies au tribunal composé d'hommes bien nés, dont l'honneur ne saurait faire aucun doute. Ils sentent naturellement que l'opinion de l'un d'entre eux doit avoir plus de poids que la parole d'un individu sans réputation tel que Job Gregson, qui vient on ne sait d'où et qui est fortement soupçonné de braconnage. Un vagabond établi depuis peu sur les communs d'Arumain, dont le territoire est, je crois même, au-delà des limites de la paroisse. Vous n'êtes pas responsable de ce qui peut arriver sur un terrain qui ne relève pas de votre cure, et les magistrats pourraient être fondés à vous répondre que cette cause ne vous regarde pas. Ils pourraient même, ajouta Milady en souriant, me prier à mon tour de me mêler de mes affaires, si j'intervenais dans celle-ci. Ne le trouvez-vous pas, Monsieur Gray ? La figure du pasteur exprimait un mélange de chagrin et d'irritation. 2 ou 3 fois, l'honnête jeune homme avait ouvert la bouche pour répondre à Milady, et s'en était abstenu, comme si les paroles qui arrivaient à ses lèvres eussent manqué de raison ou de convenance. « Il peut sembler présomptueux de ma part, dit-il enfin, que je me permette, après un séjour de quelques semaines dans le pays, d'avoir sur le caractère de ses habitants une opinion différente de celle des personnes qui les connaissent de longue date. » Milady fit un léger signe d'approbation que je supposais involontaire et dont M. Gray ne sembla pas s'apercevoir. « Mais je suis convaincu, poursuivit-il, que cet homme est innocent. Les magistrats eux-mêmes allèguent pour seul motif de leur conduite cette coutume ridicule dont l'objet est de fêter l'avènement d'un nouveau juge par une condamnation, quelle que soit d'ailleurs l'innocence du prévenu. » Cette malencontreuse épithète de ridicule détruisit immédiatement l'heureux effet qu'avait produit sur Milady l'humilité des premières phrases de M. Gray. Je vis aussi clairement que si elle l'avait dit, en propres termes, combien sa seigneurie était blessée d'une pareille expression, appliquée par un homme d'un rang inférieur aux actes de gentilshomme de la plus haute naissance. C'était à vrai dire un manque de tact impardonnable, si l'on considère à qui s'adressait notre jeune ecclésiastique. « Monsieur Gray, répliqua Milady, nous ferons bien de changer de conversation. C'est un sujet sur lequel nous ne serons jamais d'accord. » Lady Ludlow avait proféré ces paroles d'une voix basse et lente, qui, chez elle, était le signe infaillible d'une vive contrariété. La figure de M. Gray passa du rouge au pourpre, et devint immédiatement d'une pâleur excessive. Tous les deux paraissaient avoir oublié notre présence, et ma compagne et moi, fort embarrassés de nous-mêmes, cherchions un moyen de leur rappeler que nous étions là, tout en désirant savoir comment se terminerait cette aventure dont l'issue nous intéressait vivement. Le jeune ecclésiastique se redressa de toute sa hauteur avec un sentiment de dignité si profond qu'en dépit de sa petite taille, de la gaucherie de ses manières et de l'embarras qu'il éprouvait quelques instants avant, il me parut tout aussi noble que Milady elle-même. « Votre seigneurie, dit-il, voudra bien se rappeler qu'il est parfois de mon devoir d'entretenir mes paroissiens de textes divers, au sujet desquels je ne partage pas leur opinion, et que je ne suis pas libre de garder le silence par ceux-là seuls qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. » La surprise et peut-être l'indignation dilatèrent les grands yeux de Lady Ludlow. Je ne crois pas que M. Gray eût fait preuve de sagesse en lui parlant ainsi. Lui-même, sans fléchir néanmoins devant l'orage qu'il avait provoqué, parut effrayé des conséquences de son audace. Il y eut un instant de silence, après quoi Milady reprenant la parole. « Monsieur Gray, dit-elle, je respecte votre franchise, bien que je me demande si un jeune homme de votre âge et de votre position a jamais eu le droit de se croire meilleur juge en pareille matière, qu'une personne ayant acquis l'expérience que donnent à la fois les années et le rang que j'occupe dans le monde. » Si ma qualité de prêtre de cette paroisse, reprit M. Gray, me force à dire la vérité aux gens d'une humble condition, elle ne m'oblige pas moins, madame, de la faire connaître aux gens riches et titrés. Le pauvre jeune homme, cela se voyait à sa figure, en était arrivé à ce point de surexcitation qui, chez les enfants, se termine toujours par des larmes. Il avait puisé dans sa conscience le courage de faire une chose qui lui était souverainement antipathique, et il était facile de voir combien il souffrait de la contrainte qu'il s'était imposée. Chaque seconde augmentait son embarras, qui devint plus grand encore, lorsqu'ayant tourné les yeux de notre côté, il découvrit notre présence. « Monsieur, lui demanda sa seigneurie, dont le visage s'anima tout à coup, ne sentez-vous pas que vous êtes bien loin maintenant du sujet primitif de cette conversation? Vous parlez des devoirs que vous avez à remplir envers vos paroissiens. Permettez-moi de vous répéter que les communaux d'Armain sont en dehors de la paroisse d'Enbury et que vous n'avez pas charge d'âme à l'égard des gens qui habitent ce malheureux terrain. J'ai eu tort de vous parler de cette affaire, madame. Je le vois maintenant. J'ai nui à la cause que j'aurais voulu défendre, répondit tristement l'ecclésiastique. Pardonnez-moi, madame, et permettez que je prenne congé de votre seigneurie. » M. Gray s'inclina d'un air profondément affligé qui frappa Lady Ludlow. « Je vous souhaite le bonjour, lui dit-elle, un peu plus vite et plus haut qu'elle n'avait parlé jusqu'ici. Rappelez-vous que ce Job Gregson est un braconnier, le fait est notoire, un mauvais sujet dans toute la force du terme, et que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe au communaux d'Armain. » L'ecclésiastique allait franchir la porte de la salle au moment où Milady proféra ces paroles. Il répondit en manière d'aparté quelque chose que nous entendîmes, car nous étions près de lui. À peine eut-il fermé la porte que Milady nous demanda vivement ce qu'il avait répondu. Nous nous regardâmes, ma compagne et moi, d'un air inquiet, mais il fallut obéir. « Il a dit, répliquai-je en baissant les yeux, qu'il était responsable de tout le mal qu'il ne s'efforçait pas d'empêcher. » Sa seigneurie nous tourna le dos immédiatement et s'éloigna d'un pas rapide. Mary pensa qu'elle était de mauvaise humeur parce que nous avions assisté à cette fâcheuse conférence, et qu'elle m'en voulait surtout de lui avoir répété les paroles du jeune prêtre. Mais ce n'était pas de notre faute si nous étions dans la salle, et j'étais bien forcé de répondre à la question qu'elle m'adressait. Quelques minutes après, nous montions en carrosse. Milady occupait toujours la banquette de derrière, et l'occupait toute seule, C'était la règle, l'étiquette le voulait, et nous ne songions même pas qu'elle pût être modifiée. Quelques-unes d'entre nous souffraient bien, il est vrai, de s'en aller à reculons. Pour remédier à cet inconvénient, Milady faisait ouvrir les glaces des deux côtés, ce qui lui donnait un accès de rhumatisme, elle le savait, mais elle ne voyait pas d'autre moyen de nous épargner les maux de cœur, et se mettait bravement entre deux airs pour sauver l'étiquette. Le jour dont il est question, sa seigneurie avait l'esprit trop occupé pour s'intéresser à la route que suivait la voiture, et le cocher nous conduisit à sa guise. Nous gardions le silence, car Milady ne parlait pas, et avait l'air très sérieux. Généralement, au contraire, elle savait nous rendre ses promenades fort agréables, du moins à celles qui pouvaient aller à reculons sans avoir de nausées. En nous racontant ce qui lui était arrivé autrefois, ce qu'elle avait vu à Paris, à Versailles, où elle était allée dans sa jeunesse, à Windsor, à Kew, à Weymouth, où elle avait accompagné la reine quand elle était fille d'honneur. Mais ce jour-là, sa seigneurie conserva un silence absolu. Tout à coup, cependant, elle mit la tête à la portière. « John, » dit-elle en s'adressant au valet de pied, « où sommes-nous ? Je ne me trompe pas, ce sont bien les communaux d'Arremain. » « Oui, madame, » répondit John, qui, debout, auprès du carrosse, attendait les ordres de sa maîtresse. Milady sembla réfléchir un instant, puis elle dit à John de baisser le marchepied, et descendit de voiture. Nous la vîmes choisir avec soin les endroits où elle put mettre la pointe de son petit soulier à talons, au milieu des flaques d'eau épaisse et jaune qui parsemaient la plaine. John la suivait à quelques pas d'un air majestueux et préoccupé, tant il redoutait pour ses bains d'un blanc pur cette boue liquide dont il lui fallait suivre les bords. Milady se retourna brusquement, lui adressa la parole, et il revint de notre côté d'un air à la fois surpris et mécontent. Sa seigneurie continua de se diriger vers un groupe de chaumières situé à la partie supérieure des communaux, bâti, comme on le faisait parfois à cette époque, avec de la terre et des branches et couvertes de gazon. Autant que nous pûmes en juger, Milady hésita au moment d'entrer dans l'un de ces bouges, et ne se décida pas même à questionner les enfants qui barbotaient dans la fange autour de ces masures. Cependant, elle disparut dans l'un de ces cottages, où elle resta 8 ou 10 minutes, qui nous parurent bien longues. Quand elle en sortit, elle avait la tête basse, non pas cette fois pour choisir la terre sèche, mais sous l'impression d'un sentiment qui paraissait la bouleverser. Elle reprit sa place dans la voiture, ne sachant pas encore la route qu'elle devait suivre. John attendait, le chapeau à la main, les ordres qu'il fallait transmettre au cocher. « Manoir d'Attaway, » dit Milady, après un instant de réflexion. « Chère petite, » ajouta-t-elle en s'adressant à nous, « si vous êtes fatiguée ou si Mistress Middlecote vous attend pour un objet quelconque, je vous descendrai à Bearford, qui est tout au plus à un quart d'heure du château. » Nous nous empressâmes de répondre que Mistress Middlecote n'avait pas besoin de nous. Il était probable que la masure d'où sortait Milady était celle de Job Gregson, et nous avions trop envie de savoir comment tout cela finirait pour avouer notre fatigue. Nous allâmes donc avec sa seigneurie jusqu'au manoir d'Attaway. Monsieur Henry Latome, le nouveau juge possesseur de ce manoir, était un célibataire de 30 à 35 ans, plus à son aise dans les champs que dans un salon, et beaucoup plus habitué à la société des chasseurs et des palefreniers qu'à celle des femmes. Milady ne pouvait pas songer à descendre. C'était à Monsieur Latome de venir la trouver à son carrosse. Elle ordonna donc au maître d'hôtel, brave homme qui tenait du garde-chasse et ne ressemblait nullement au magnifique gentleman à tête poudrée qui chez nous remplissait les mêmes fonctions, de porter ses compliments à Monsieur Latome et de lui dire qu'elle désirait lui parler. Je vous laisse à penser quelle fut notre joie en apprenant que nous allions assister à l'entrevue et savoir les paroles qui allaient être échangées. Toutefois, nous aurions dû le regretter lorsque nous vîmes combien notre présence augmenta la confusion du pauvre gentilhomme, qui trouvait déjà bien assez pénible de répondre aux questions de Lady Ludlow sans avoir pour auditeur deux jeunes filles aux regards curieux, aux oreilles attentives. « Monsieur Latome, » commença Milady, avec une vivacité qui ne lui était pas ordinaire, « qu'ai-je entendu dire à propos de Job Gregson ?» Le nouveau magistrat parut très contrarié, mais n'osa pas le montrer dans ses paroles. « J'ai décerné un mandat contre lui, et l'ai fait arrêter comme voleur. C'est tout, madame, » répondit-il en s'inclinant. Vous connaissez la réputation de ce Job Gregson, un braconnier de la pire espèce, qui tend des pièges, met des collets, pêche en tout temps et en tout lieu, avec toutes sortes d'engins. Et vous savez qu'il n'y a qu'un pas du braconnage au vol. Assurément, répliqua Milady, qui, pour cette raison, avait horreur des braconniers. Mais je suppose que vous ne faites pas jeter un homme en prison par cela seul qu'il n'est pas bien famé.
Un vagabond, répondit M. Latome, peut être arrêté sans être prévenu d'aucun acte spécial, tout bonnement pour sa manière de vivre, qui est un danger pour la commune et qui est passible des rigueurs de la loi.
Fort bien, répliqua Milady, mais ce n'est pas comme vagabond que vous avez fait emprisonner Job, c'est en qualité de voleur, et sa femme, que je viens de voir, affirme qu'il a passé toute la journée à plusieurs milles de l'endroit où le vol a été commis. Elle prétend même que la preuve vous en a été donnée.
Aucune preuve de ce genre n'est arrivée à ma connaissance, avant l'époque où j'ai décerné le mandat, répondit M. Latome, d'un air en tant soit peu bourru. Je ne suis pas responsable de la décision des autres magistrats, et n'ai pas à m'inquiéter des nouveaux témoignages qu'ils avaient pu recevoir lorsque, sur ma demande, ils ont envoyé ce misérable en prison.
Il était rare que le visage de Lady Ludlow trahît son impatience, mais nous jugeâmes de l'irritation qu'elle éprouvait au battement continuel du grand talon de son petit soulier contre le fond du carrosse. Au même instant, nous qui étions assises sur le devant de la voiture, nous aperçûmes M. Gray dans la salle du manoir. L'arrivée de Milady avait interrompu l'entretien que le pasteur était venu demander au magistrat, et il est fort probable que le jeune ecclésiastique ne perdait pas un mot de la conversation qui se tenait à la portière du carrosse. Quant à Milady, elle ne se doutait pas de la présence du ministre. En voyant M. Latome décliner la responsabilité des actes de ses collègues, elle lui répondit par l'argument dont M. Gray s'était servi à son égard. Il n'y avait pas 2 heures. « Monsieur Latome, lui dit-elle, vous êtes responsable de toutes les injustices que vous pouvez prévenir, de tous les maux que vous pouvez empêcher. Dans cette circonstance, d'ailleurs, l'injustice a pour base une méprise de votre part. J'aurais voulu que vous fussiez avec moi tout à l'heure, et que vous eussiez vu la misère qui règne dans le cottage de ce pauvre homme. » Elle avait baissé la voix, suivant son habitude lorsqu'elle était émue. Peu à peu, M. Gray s'était approché pour l'entendre. Le magistrat tournait le dos à celui-ci, mais il entendit marcher. Il ne douta pas que ce ne fût l'ecclésiastique, et ses manières devinrent de plus en plus maussades. Toutefois, il était devant Lady Ludlow, et n'osait pas lui parler comme il l'eût fait à M. Gray. Milady n'en vit pas moins sur sa figure qu'il persistait dans son opinion. Elle s'en exaspéra, et prenant la chose à cœur. « Vous ne refuserez pas, lui dit-elle, d'accepter ma caution. Mettez ce pauvre homme en liberté. Je vous offre de m'engager pour lui, et je vous assure qu'il paraîtra devant le tribunal au moment des assises. »
« La caution ne peut être acceptée lorsqu'il s'agit d'un vol, madame, » répondit M. Latome.
« C'est possible dans les circonstances ordinaires, » répliqua Milady, « mais il s'agit d'un cas tout à fait exceptionnel. Job est envoyé en prison tout bonnement pour vous souhaiter la bienvenue, et malgré toutes les preuves qui établissent son innocence. Je ne doute pas qu'il ne soit acquitté aux assises, mais en attendant, il sera plus de 6 semaines en prison, et sa femme et ses enfants mourront de faim. C'est pour cela que moi, Lady Ludlow, je vous offre ma caution, pour lui, et je m'engage à le faire comparaître lorsque le moment sera venu. »
La loi s'y oppose, madame.
Bah, bah, qu'est-ce qui fait les lois, monsieur Latome? Mais pareil dans la Chambre des Lords, et les vôtres dans celle des communes. Puisque nous faisons la loi, nous pouvons en forcer la lettre, quand nous avons pour nous le bon droit et notre conscience, et que nous sommes sur nos terres, au milieu des gens qui nous appartiennent.
Le Lord Lieutenant me retirerait ma commission s'il apprenait pareille chose.
Ce serait bien heureux pour le comté, Henry Latome, et pour vous également, si vous devez poursuivre votre carrière comme vous la commencez. Un excellent tribunal que vous faites à vous tous. Quel judiciaire que la vôtre et celle de vos collègues. J'ai toujours dit et pensé qu'un bon despotisme est la meilleure forme de gouvernement, et j'en suis de plus en plus convaincu en voyant le résultat de vos assemblées délibérantes, de vos jurys, de vos scrutins de toute espèce. Chers enfants, dit-elle en se retournant vers nous, si cela ne vous fatigue pas de retourner à pied au château, je prierai M. Latome de vouloir bien monter dans mon carrosse, et nous irons immédiatement à la prison d'Henley pour en faire sortir ce malheureux Job à l'instant même.
Une promenade à travers champs et à cette heure-ci est peu convenable pour des jeunes filles, que personne n'accompagne, objecta M. Latome, qui désirait probablement réchapper au tête-à-tête proposé et qui, sans doute, répugnait à consentir aux mesures illégales que demandait sa seigneurie. Mais de son côté, M. Gray avait trop à cœur les intérêts du prisonnier pour ne pas lever tous les obstacles qui pouvaient s'opposer à son élargissement. Rien de plus amusant à voir que la figure de Milady, lorsque le jeune ecclésiastique, en s'avançant, lui montra qui elle avait eu pour auditeur. Elle venait de tenir à M. Latobe le même langage que lui avait adressé le jeune ministre et qui, dans la bouche de ce dernier, lui avait tant déplu. Elle avait parlé au magistrat d'une assez verte façon en présence de celui à qui elle avait vanté la droiture, le bon sens et, pour ainsi dire, l'infaillibilité de ce gentilhomme. Toutefois, avant que le jeune pasteur eût terminé l'offre qu'il faisait de nous reconduire au château, Milady avait complètement repris possession d'elle-même, et ce fut avec une bienveillance parfaite qu'elle dit à M. Gray. « Je ne savais pas que vous fussiez ici, mais je crois comprendre à quel propos vous y êtes venu, et cela me rappelle que j'ai à remplir un devoir auprès de M. Latome. Je vous ai parlé en toute franchise, dit-elle au magistrat, oubliant aujourd'hui même que j'étais en désaccord avec M. Gray, précisément sur la question qui nous occupe. Je voyais alors toute cette affaire sous le même jour où vous l'envisagez. Il me semblait, comme à vous, que le pays n'avait qu'à gagner à l'emprisonnement de ce misérable Gregson, qu'il fût coupable ou non du vol dont on l'accuse. Nous nous sommes quittés, M. Gray et moi, d'assez mauvaise humeur, ajouta-t-elle en saluant avec grâce le jeune ecclésiastique. Mais j'ai vu depuis la femme et l'intérieur de Gregson. J'ai senti que M. Gray avait raison, que c'était moi qui avais tort. Et avec l'inconséquence proverbiale de mon sexe, je suis venu vous reprocher amèrement de soutenir l'opinion que je partageais il y a une heure. « Monsieur Gray, poursuivit-elle, en saluant de nouveau l'ecclésiastique, ces demoiselles vous seront très reconnaissantes si vous voulez bien les accompagner au château. Et vous, monsieur Latome, puis-je vous demander d'être assez bon pour venir avec moi jusqu'à la prison d'Henley ?» Monsieur Gray salua très bas et devint pourpre. Monsieur Latome balbutia quelque chose que personne n'entendit et qui me fit l'effet d'être une protestation contre la démarche qui lui était imposée. Lady Ludlow ne parut même pas s'apercevoir de ces murmures. Elle prit l'attitude patiente d'une personne qui attend ce qu'elle est sûre d'obtenir. Et, comme nous nous détournions pour prendre le chemin conduisant au château, nous vîmes Monsieur Latome qui montait dans le carrosse, de l'air d'un chien qu'on fouette. Je dois avouer qu'il m'aurait été fort pénible de me trouver à sa place, et qu'il avait probablement raison en taxant d'illégal l'objet de la course que Milady lui faisait faire. Notre retour au château fut extrêmement ennuyeux. Il n'y avait rien à craindre, et nous nous serions parfaitement passés de la compagnie de M. Gray, qui n'était plus qu'un jeune homme gauche et timide, rougissant en silence et fort embarrassé de lui-même. À chaque barrière, le pauvre garçon hésitait, gravissait l'échalier, pensant qu'il serait plus facile de nous aider en le franchissant d'abord. Puis il s'arrêtait court, se retournait et venait se mettre derrière nous, frappé de l'idée subite qu'il était fort impoli de passer avant une femme. Bref, il n'avait aucune aisance dans les manières, ainsi que le disait Lady Ludlow, bien que, dans les grandes occasions, il déployât toujours une extrême dignité.